Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle visite radiophonique. Alors cette fois-ci, point de Nelly Lafont et de Pays d'Art et d'Histoire Mandelotan Gévaudan, ni de Caroline Entraigue du CAUE de la Lozère, mais Nico qui est déjà venu dans ces émissions et là pour la remplacer, hein, Nico du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Lozère. Salut Nico.
Salut.
Il y en a également un nouvel invité, Paul Fouet, qui est chargé des zones Natura 2000 au sein de l'association Terre de Vie en Lozère. Bonjour.
Bonjour.
Alors Nico, on va aller où aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on va partir au Planète. Donc le Planète, c'est sur la commune d'Esclanède, en bordure du Lot, et on va aller se promener dans ces paysages à partir du Bruel.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Voilà un peu de route, on est au bord de l'eau à Esclanède et on va parler pour cette émission donc d'arbres champêtres et de la haie en Lozère. Nico, peut-être pour commencer, parler un peu du contexte donc de l'arbre champêtre et de la haie en Lozère.
Alors oui, l'arbre, qu'on peut dire l'arbre des villes ou l'arbre des champs, du coup l'arbre champêtre est présent sous différentes formes dans le paysage, donc les haies en sont une. Et c'est vrai, quand on parle de bocage, finalement, on ne pense pas forcément au paysage de Lozère en premier. On pense plutôt à la Bretagne, la Normandie ou même nos voisins Auvergnat et Aveyronnais. Et la Lozère est un département peu bocager, mais où l'on retrouve l'arbre champêtre sous différentes formes en fonction des terroirs et des usages.
Oui, donc c'est vrai que, comme disait Nico, la Lozère n'est pas forcément le premier département qui vient à l'esprit quand on parle de bocage. Et en fait, ça peut s'expliquer par différents points. Comme l'a dit Nico, premièrement, il y a la pauvreté des sols et la diversité des terroirs qui fait que ça s'y prête relativement peu, couplé à l'altitude. Et après, il y a tout l'usage qui est fait de ce territoire-là. Il y a une bonne partie des territoires de Lozère, que ce soit l'Écosse ou le plateau d'Aubrac, la Margeride ou le Mont Lozère, qui sont des terres de transhumance, des terres d'élevage, qui ne se prêtaient pas forcément à la présence d'arbres champêtres parce que les troupeaux étaient gardés par des bergers. Ce qui peut expliquer que sur les plateaux, on a pas grand-chose et que ça se retrouve relativement dans les haies, tous ces bocages-là. C'est aussi un territoire qui est peu habité. Donc du coup, il y a un usage assez extensif du territoire et pas forcément de nécessité de tenir ces milieux-là. C'est un territoire aussi qui est très boisé. Donc en fait, la ressource en bois se trouve plus dans les forêts plutôt que sur les haies, comme ça peut être dans d'autres départements un petit peu plus de plaine. Et après, plus globalement, bien évidemment, il y a la question du remembrement aussi. Donc à partir des années 60, on rentre dans les périodes d'après-guerre, des périodes de mutation, de transformation de l'agriculture. On pousse les agriculteurs à se spécialiser et à moderniser leurs pratiques, à agrandir leurs parcelles et du coup à arracher les haies. Alors ça a été beaucoup plus important sur les autres territoires et notamment les territoires de plaine. La Lozère a été un petit peu plus épargnée par ce cas-là, mais ça s'observe quand même plus ou moins sur la vallée du Lot, où il y a eu quand même des linéaires assez importants qui ont été remembrés.
Nico, on entend quoi par arbre champêtre ? C'est quel type d'arbre ?
Alors c'est pas des arbres différents des autres, c'est surtout par rapport à leur contexte et à leurs usages, donc c'est plutôt en lien avec, on va dire, l'agriculture. Donc quand on parle l'arbre champêtre, c'est plutôt le noyer en plein milieu du champ, la haie, la trame de verger. Voilà, ce qu'on dit aussi plutôt de l'arbre, on va dire, urbain, donc qui est plutôt l'alignement de platanes, ça peut être aussi l'arbre sur la place. Voilà, c'est des types d'arbres différents. Donc aujourd'hui on va parler de cet arbre champêtre et de ses différentes formes.
Et du coup, c'est la même chose, qu'est-ce qu'on entend pour haie champêtre ?
Alors la haie champêtre, on va plutôt parler de la haie qu'on retrouve au bord des prés ou des champs. Donc ça va être dans la campagne, tous ceux qui bordent aussi les chemins et les routes. Donc la haie champêtre, on peut essayer de regarder sa composition. Donc généralement, on regarde les arbres, donc ce qu'on peut appeler la strate arborée. C'est vraiment ce qui va donner le corps à la haie. Ensuite, il vient en dessous la strate arbustive et buissonnante. Donc c'est vraiment plus les petits, ce qui vient combler et donner on va dire, la densité à la haie, donc ça peut être le noisetier, l'aubépine. On a également, quand on parle de haies, et ce qu'on regarde moins aussi d'un point de vue paysager, c'est plutôt la strate herbacée. Donc ça va être toutes les plantes qui vont se développer au pied de ces arbres et de ces arbustes qui constituent un cortège. Mais également la strate encore plus en dessous, du coup la strate qu'on appelle mucinale, donc c'est plutôt les mousses, les lichens, les champignons qui peuvent se développer. Et ça, c'est la partie un peu visible de l'iceberg, mais il y a aussi une strate qui est en sous-sol. Donc on regarde l'humus, du coup, et également tout le système racinaire et le mycélium, qui est assez important, on va dire, en Lozère pour la question du champignon.
Pour compléter, la haie, en fait, c'est, comme vient de dire Nico, c'est comme une espèce de mini-écosystème forestier linéaire, avec tout, du coup, tous les intérêts que pourrait apporter la forêt, mais sur un milieu rural, un milieu pastoral. Et du coup, s'il y a ce maillage si important, c'est parce qu'il y a tout un intérêt. L'arbre champêtre a des formes très différentes en fonction des usages qu'il a, et ces usages différents sont différents justement par rapport à tous les terroirs, à tous les plateaux, tous les massifs qu'on a en Lozère. Du coup, prennent des formes très différentes. Sur l'Aubrac, par exemple, ce sera les bandes boisées qui vont servir à parer les congères. Sur la Margeride, ce sera les frênes qui sont taillées en trogne pour servir de fourrage d'appoint pour les troupeaux en fin d'été. Sur les gorges du Tarn, ça pourrait être les vergers qui peuvent tenir les terrasses, les châtaigneraies dans les Cévennes. Enfin voilà, ça prend à chaque fois des formes très différentes. Et plus précisément ici sur la vallée du Lot, c'est la forme la plus classique de l'Auxerre, c'est-à-dire qui sert à délimiter les parcelles, à tenir les troupeaux. Donc tout ça, c'est un savoir-faire aussi, c'est quelque chose de très humain. Du coup, c'est très lié à l'homme, à sa gestion, à l'entretien des haies. Voilà, donc c'est un savoir-faire qui s'est aussi plus ou moins perdu avant les haies, avant que les barbelés soient mis, les haies étaient tressées pour tenir les troupeaux, étaient taillées différemment. Voilà, c'est un savoir-faire qui s'est un petit peu perdu, mais qu'on essaye de retrouver. Voilà.
En fait, la haie, c'est une forme naturelle, mais qui est très humaine. Et ça reflète une manière d'avoir une relation avec l'arbre dans nos territoires.
Du coup, on a parlé du rôle et des usages des haies, mais quels sont les intérêts de ces haies ?
Les haies ont pour le territoire des rôles très importants. Parmi les rôles majeurs, il y a tout ce qui est au niveau du sol, sur la composition du sol, donc pour l'enrichissement en matière organique par voilà, les feuilles et le complexe racinaire. Le principal rôle aussi, c'est pour limiter l'érosion, donc les haies en perpendiculaire de la pente vont réussir à tenir le sol. L'action mécanique de toutes les racines va permettre de tenir le sol qui peut être lessivé avec des grosses pluies. Donc voilà, ça c'est en lien aussi avec le deuxième rôle le plus important qui est par rapport à l'eau. Donc en fait, ces haies perpendiculaires à la pente qui quadrillent un peu le paysage permettent une meilleure infiltration de l'eau dans le sol, qui fait que du coup cette eau qui va glisser, qui des fois emporte les matières fines du sol, les matières les plus intéressantes, vont empêcher que tout ça parte à la rivière ou dans les nappes phréatiques et du coup stagner un petit peu plus dans le sol et rentrer en profondeur. Donc voilà, c'est parmi les rôles les plus importants.
On a aussi des rôles de microclimat, donc les haies finalement permettent une régulation thermique, donc elles favorisent aussi un microclimat plus stable quand il y a des amplitudes en hiver ou en été des températures. Ça crée un peu un effet de climatiseur naturel. En fait, on le retrouve sur finalement un arbre, c'est un parasol, et c'est un effet d'ombrage un peu voilà, par rapport au climat, permet d'avoir une meilleure stabilité. Ça permet également d'avoir des protections contre les intempéries, donc que ce soit pour nous ou même par rapport aux animaux, donc comme brise-vent, par neige. Et ça agit donc à l'échelle de la trame, donc plutôt du territoire, sur la qualité de l'air. Voilà, avec un maillage qui permet d'augmenter l'humidité, de fixer aussi certains aérosols et du CO2.
Et du coup, un rôle qui peut paraître un petit peu plus anecdotique, mais qui est de plus en plus important, ou du moins de plus en plus valorisé, c'est tout le rôle que la haie va avoir vis-à-vis de la biodiversité. Donc en fait, le rôle principal, c'est ce rôle de corridor entre les différents boisements, les différents territoires favorables. Ça va permettre de faire des voies de communication en fait entre les différents foyers de population, que ce soit pour du coup les espèces animales et notamment les chauves-souris. Donc dans le contexte dans lequel on est ici, on est Vallée du Lot, on est sur les travers nord du Causse de Sauveterre avec des falaises importantes. C'est des territoires qui sont très favorables aux chauves-souris notamment, qui sont du coup valorisés par le site Natura 2000 Falaise de Barjac qui est juste à côté. Donc ça joue un rôle important pour la faune, essentiellement la grande faune, les mammifères et les oiseaux, mais aussi très important pour la flore. Donc du coup, comme on l'avait dit, c'est un mini écosystème forestier, donc on va avoir des cortèges un petit peu plus forestiers, d'ourlets forestiers qui vont pouvoir se mettre en place et améliorer la diversité végétale. Voilà. Et après, toutes les espèces aussi, la microfaune du sol, en lien aussi avec cet écosystème forestier, tout ce que ça va apporter comme micro-organismes qui vont aider à la décomposition.
Et même au-delà de ces rôles plus structurels, donc du microclimat, de l'eau, du sol et de la biodiversité, on retrouve aussi ces haies pour leur côté esthétique, donc dans le cadre de vie. Donc ça façonne finalement les paysages. On voit bien que c'est des éléments structurants qui reflètent une certaine richesse de nos terroirs. C'est constitue un patrimoine culturel et un héritage aussi de la manière dont on vit sur un paysage, sur un territoire. C'est un maillage arboré voilà, qui assure une continuité paysagère entre les espaces agricoles, naturels et habités. Donc par rapport au cadre de vie, ça augmente aussi, enfin en tout cas ça participe à la qualité de vie, notamment par rapport au bioclimatisme qu'on peut avoir des arbres au profit de l'habitation, par rapport à un certain confort thermique, mais aussi des espaces publics plus agréables à vivre. Ici on en est bien conscient dans notre promenade aux planètes aujourd'hui, voilà, on voit bien que ça participe à notre bien-être de notre promenade, mais également voilà, au bien-être animal, des animaux d'élevage comme les animaux sauvages. Donc ça, finalement, c'est un support qui peut être plus récréatif, donc ça peut participer à de la cueillette, à un certain accès à la nature, finalement aux loisirs en plein air, par rapport, quand on se promène sur un chemin, tout de suite on est bordé de haies, c'est aussi ça qu'on va rechercher. Et toutes ces fonctions aussi esthétiques par rapport au rôle aussi structurel, on en retire des certaines ressources, qui peuvent être des ressources économiques, donc comme le bois d'œuvre, mais également des transformations plutôt comme le bois énergie ou des plaquettes litières. Donc là, c'est dans l'idée d'une exploitation agricole, ça peut être la gestion des haies, ce qu'on avait tendance à appeler les déchets verts, qui peut être valorisé plutôt comme du paillage du coup de litière, mais aussi par rapport aux collectivités, des paillages qu'on va retrouver sur des plantations ou sur des massifs. Et on retrouve aussi dans ces haies une certaine ressource fourragère quand elle peut venir à manquer en fin d'été, souvent voilà, dans les parties plus de prairies, même si ça peut rester assez minime et secondaire. Et on remarque aussi une production fruitière, finalement, on peut très bien avoir des arbres dans une haie, et ces arbres-là peuvent être fruitiers, que ce soit autant sauvages que greffés.
Voilà, justement, là, on a pas mal de haies autour de nous. Nico, on va aller se rapprocher d'une haie ici, à Esclanade.
Et oui, là, on se promène sur le chemin, alors on en voit pas mal, il y en a qui bordent le bord des voies, et il y en a d'autres qu'on aperçoit un peu, donc on remarque celle au bord du Lot, où il y a tout de suite certains peupliers ou certains grands arbres là, qui se déchassent du paysage, et quand on regarde plutôt sur la gauche, côté village, on remarque encore quelques trames de fruitiers, des murs en pierre sèche, et tout un petit maillage voilà, qui nous permet de rejoindre le Bruel.
Allez, on y va. Paul, du coup, on s'est un peu avancé. Pourquoi on s'arrête ici ?
Donc, du coup, on s'est mis un peu à l'écart du chemin, à l'entrée d'une parcelle ici, parce qu'on est à un endroit assez parlant quand même, parce qu'on a vraiment plusieurs stades dans l'œil, un peu ce qu'on voulait montrer, sur les différentes strates. Donc, sur la strate arborée, donc vraiment tout ce qui est les grands individus, les arbres, on retrouve des chênes anciennement taillés à la base, qui sont assez majestueux, qui sont pris de lierre. En grands arbres aussi, on a du noyer, c'est un arbre qu'on trouve beaucoup sur la vallée du Lot, que ce soit en milieu de parcelle ou comme les autres en forme de haie. On a des frênes aussi, dont on peut apercevoir qu'ils ont été anciennement taillés, donc qui n'ont pas été taillés depuis des années. Il y a des rejets assez vieux, mais on voit ces espèces de boules qui sont formées sur le bout des branches, qu'on appelle des têtards. Et après, sur les strates un petit peu plus basses, on peut voir des noisetiers là-bas en chaton, on peut voir des érables champêtres, on peut voir des aubépines aussi, des aubépines, des pruneliers, des ronces, qui avant étaient très intéressants pour vraiment stratifier, pour densifier la haie, pour tenir les troupeaux. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a du fusain aussi qu'on a vu. Voilà, on a une assez grande diversité des espèces relativement communes, mais qui jouent un rôle très important dans l'écosystème de la haie. Et après, sur les strates un petit peu plus basses, on peut voir des clématites qui grimpent dans les arbres. Enfin, là, c'est leur hampe sèche. On peut voir des ronces aussi qui densifient toute la strate basse et qui, du coup, forment vraiment cette espèce de barrière très importante pour cet écosystème-là.
Et toutes ces haies sont des clés de lecture du paysage, donc c'est vrai qu'elles sont disponibles finalement tout le temps quand on prend le temps de les observer, que ce soit dans nos trajets quotidiens, même en voiture, on en aperçoit quand même assez régulièrement. Et ça nous, donc les haies nous racontent le relief, le sol, le contexte, mais finalement voilà, quand on prend un peu le temps de les observer comme a fait Paul par rapport aux usages, que ça nous raconte aussi sur la faune présente, sur l'histoire d'un territoire ou de pratiques agricoles. Finalement, c'est un peu comme si on disait « raconte-moi ta haie et je te dirai dans quel paysage tu es ».
Du coup, pourquoi décider d'en parler aujourd'hui ?
Alors c'est vrai que ces derniers temps, on en entend beaucoup parler. Et la raison principale, c'est parce que les haies et le maillage bocager sont une excellente réponse au contexte climatique. Alors pour tout ce dont on a parlé, pour tous les rôles qu'elles jouent vis-à-vis des activités humaines, essentiellement des activités agricoles, mais aussi pour tout le cadre de vie. Après, ces haies-là, elles sont aussi au cœur du débat parce que certaines haies, notamment certaines essences en fonction des territoires, pardon, peuvent être menacées par cette élévation de la température et toutes les conséquences générales du changement climatique. Et après, du coup, l'intérêt principal, et c'était peut-être au cœur de l'actualité aussi avec le salon de l'agriculture, c'est qu'on entend énormément, de plus en plus du moins, parler d'agroécologie, de sylvopastoralisme. On essaye justement de couper un peu avec cet héritage des années 60 et des politiques agricoles d'après-guerre et de réintégrer un petit peu plus l'arbre dans les systèmes agricoles et d'adapter un petit peu plus les systèmes agricoles en fonction du territoire et non pas d'appliquer une logique généralisée sur tous les territoire. C'est un peu dans ce cadre-là que la haie, entre autres sujets d'actualité, rentre là-dedans.
Nico, quels sont les enjeux actuellement pour ces haies ?
Mais finalement, agir sur la haie, ça revient surtout à préserver l'existant. Et on voit, il y en a beaucoup d'anciennes haies qui sont encore présentes. Et donc, c'est-à-dire de les gérer, enfin en tout cas de savoir les gérer durablement, de transmettre un peu un savoir-faire de cette gestion un peu du végétal. Et c'est surtout anticiper un avenir. Donc là-dessus, c'est quand on parle de préserver l'existant, ça va aussi de pair avec l'autre dynamique de pourquoi pas le développer, d'en augmenter le linéaire. Finalement, l'idée, c'est pas de retrouver finalement un stade d'il y a 100 ans, c'est plutôt de voir comment, à partir de l'observation actuelle du territoire, quels seraient les endroits qui seraient propices à accueillir une nouvelle haie ou plusieurs. Voilà. Est-ce que des fois, de créer une nouvelle continuité aussi entre deux haies, entre maillages. Finalement, c'est essayer de retrouver davantage de cohérence au niveau du maillage des haies et donc de la biodiversité et de tous les rôles qu'elle peut apporter, tout en ayant quand même ce regard... du coup, aujourd'hui, vis-à-vis des pratiques agricoles contemporaines et puis également du cadre de vie et des souhaits un peu de la société.
Et du coup, quand même, en complément de cette préservation de l'existentiel, il y a tout un enjeu vis-à-vis de la plantation. Donc il y a énormément maintenant de structures, il y a des structures référentes sur chaque département qui agissent sur la gestion et la plantation des haies. Donc en Lozère, c'est le COPAGE qui s'occupe de ça. Mais il y a plusieurs structures qui travaillent autour de cet enjeu-là. Donc il y a le COPAGE principalement. Vous avez le Parc National des Cévennes aussi qui a tout un programme autour des haies mellifères. Le PNR de l'Aubrac aussi sur son territoire agit beaucoup là-dessus. La Chambre d'agriculture accompagne les techniciens et peut financer aussi avec le COPAGE des actions de plantation. Natura 2000 aussi peut intervenir alors sur des territoires particuliers mais peut intervenir en lien avec tout cet enjeu biodiversité là. Donc voilà, vu que c'est un enjeu majeur, il y a tout un tas d'acteurs du territoire qui se sont mis à travailler sur cette thématique là.
Et du coup, le projet de plantation de haies s'accompagne souvent dans une réflexion un peu plus globale sur une réflexion d'aménagement. Donc c'est vrai que là, on parle plutôt aux collectivités ou aux particuliers. Et l'idée quoi, là, qu'on peut intégrer une haie dans son futur projet d'aménagement. Pour ça, du coup, nous, au CEU, on accompagne les collectivités très en amont, du coup, dans la réflexion. Et donc, l'idée de voir, finalement, où est-ce qu'on peut conserver certains arbres, où est-ce qu'on peut en planter, que ce soit un projet d'espace public ou même d'extension de village et dans la planification urbaine. Et on conseille également les particuliers gratuitement pour leurs projets d'aménagement paysager.
Du coup, il y a plusieurs méthodes et... Une des méthodes qui est favorisée aussi, c'est simplement la régénération naturelle assistée, ce qu'on appelle la RNA. En fait, c'est simplement clôturer le linéaire sur lequel on souhaiterait avoir une haie et laisser naturellement la végétation reprendre. Alors, ça prend plusieurs années et ça peut être difficile à accepter plus ou moins, parce que du coup, c'est des ronces qui commencent par s'installer, puis des petits pionniers, ça prend un peu de temps, mais l'avantage, c'est que c'est très moindre coût et ça permet vraiment d'avoir l'expression naturelle de la végétation locale. Du coup, en fonction des territoires, on n'a pas à se demander quelle essence sera la mieux adaptée, c'est naturellement l'essence adaptée qui va s'y mettre.
Et du coup, dans cet autre enjeu de retrouver un végétal qui est aussi adapté à son contexte, qui vient naturellement, donc quand on fait un chantier de plantation, c'est l'idée de pouvoir coller aussi à son territoire. Et donc il existe un label, donc, qui s'appelle le label végétal local, qui finalement a redécoupé toute la France en biorégions. Donc nous, ici en Lozère, on en fait partie de la région Massif Central, et qui met en réseau des pépinières agréées, qui permettent justement à partir de graines qui sont récoltées sur les territoires et dans un certain périmètre autour d'elles, de pouvoir remettre en culture du coup des plants qui vont servir eux donc au chantier de plantation, donc que ce soit de haies, mais aussi on peut très bien finalement aussi se diriger vers ce label lorsqu'on a des chantiers de plantation de haies donc en agriculture, mais également pour des collectivités, en bord de voirie ou même chacun chez soi du coup en tant que particulier. Donc avec toutes ces nouvelles dynamiques de plantation, de gestion, de préservation de l'existant, on s'est rendu compte voilà, plusieurs structures et acteurs du territoire qui avaient un besoin de se réapproprier du coup, certaines bonnes pratiques, notamment pour gérer et pour pérenniser ce patrimoine. Et ce qui passe donc par la formation, mais aussi l'information et la sensibilisation. Donc que ce soit donc notamment à destination des agriculteurs et des propriétaires fonciers, mais également des collectivités, des acteurs gestionnaires du territoire, et aussi chacun de nous, voilà, en tant qu'habitant, qu'on a un rôle finalement à jouer aussi en faveur des haies et de l'arbre champêtre. Et chacun fait partie du paysage, du territoire. Donc c'est l'idée de pouvoir s'inscrire à l'image d'une haie dans un maillage territorial.
Alors justement, par rapport à tous ces enjeux et ces besoins, vous avez mis en place un outil ?
Oui, c'est ça. C'est l'idée d'un travail collaboratif qui est venu donc, entre plusieurs structures, donc avec le COPAGE, la Chambre d'agriculture, l'association Natura 2000 et le CAUE. Donc l'idée, c'était d'avoir un outil commun qui permette de refléter une vision partagée de nos structures, donc chacun avec son point de vue plutôt technique, plutôt agricole, biodiversité ou cadre de vie. Et que ce soit un outil finalement qui soit compréhensible par tous les acteurs du territoire et par un large public, et également exploitable voilà, par nos structures dans des contextes d'animation, de sensibilisation. Donc on le retrouvera finalement, on peut le retrouver en lecture seule, mais également lors d'événements, mais aussi dans l'enseignement, c'est des outils qui peuvent être mis à disposition des scolaires, tout comme la formation agricole. Ça a été un travail de synthèse donc qui se veut quand même exhaustif et qui parle, mais voilà, qui puisse parler finalement à tout le monde, donc qui rejoigne du général, mais en même temps un propos qui soit assez technique pour pouvoir le mettre en application. Et donc ce travail voit le jour sous une forme d'une série de 4 plaquettes donc, qui est dénommée la haie et l'arbre champêtre en Lozère, qui s'articule donc autour de 4 thématiques. Et, deux sont déjà paru, donc il y a le premier volet qui s'appelle Connaître, donc on tourne plutôt autour des enjeux, des intérêts, des généralités un peu autour de la haie, avec une frise avec tous les rôles finalement qu'on a pu parler précédemment lors de notre visite. Et la deuxième qui est plutôt plantée, donc là on va plutôt s'accentuer sur le projet de plantation avec des bonnes pratiques, avec une chronologie un peu voilà, d'un chantier, donc toutes les étapes qui sont à prendre en compte entre les prérequis, la définition de son projet, la création d'un plan de plantation, la liste d'espèces qui peut être préconisée et finalement voilà, de toutes les étapes de plantation jusqu'à l'entretien les premières années.
Donc la troisième plaquette qui est en cours de conception, c'est la plaquette gérée, donc qui regroupe tout un tas d'éléments techniques sur comment tailler, comment gérer ces les formes qu'elles doivent prendre en fonction des intérêts qu'on souhaite, des petits conseils mémo, tout ça. Et la dernière plaquette, ce sera la plaquette valorisée, qui est du coup plus sur le long terme pour les différentes ressources, les intérêts qu'elles peuvent avoir à destination des agriculteurs, pour le sol, le bois plaquette, le bien-être animal, pour les collectivités, les plantations, les projets, et après pour les particuliers, le chez-soi, le territoire proche, le cadre de vie qu'elles apportent.
Du coup, on peut les retrouver où, ces plaquettes ?
Alors du coup, pour l'instant, les deux premières plaquettes qui sont disponibles, elles sont disponibles sur Internet, sur les sites Internet des sites Natura 2000, Falaise de Barjac et le site Natura 2000 Val d'Aunès. Et elles seront prochainement disponibles sur les sites des autres partenaires, donc le CAUE, le COPAGE et la Chambre d'Agriculture. Et après, voilà, il ne faut pas hésiter à nous solliciter les structures de cette plaquette pour les rendre disponibles en format papier.
Et donc pour conclure notre sortie ensoleillée aux planètes à Esclanède, l'idée c'est de faire un peu un tour d'horizon sur la haie. On se rend bien compte que la haie fait partie intégrante de l'identité d'un territoire, donc c'est un élément finalement qui est constitutif de son patrimoine naturel et paysager, mais c'est un élément vivant finalement. On peut la voir en tant que telle, la haie ou l'arbre au bord du chemin, mais aussi quand on a plutôt une vue d'oiseau sur tout l'ensemble du territoire. C'est un maillage qui reflète aussi finalement notre manière d'habiter ce territoire-là, et ça reflète des choses qu'on... Voilà, en termes de foncier, en termes d'activité agricole, en termes de circulation aussi dans nos paysages finalement. La haie champêtre reflète finalement le cadastre du coup du territoire. Donc il y a des haies finalement qui sont des marqueurs et des repères dans le territoire. Certaines sont là, alors pas la haie en tant que telle ou l'arbre en lui-même, mais finalement elle est sur un découpage du territoire qui peut revenir à plusieurs siècles en arrière. Donc c'est aussi une manière de lire son évolution, la manière dont on le parcourt. Et cette organisation qu'on retrouve aujourd'hui dans le paysage, finalement, c'est un paysage qui est vivant, qui est amené à évoluer comme il a pu évoluer à travers les siècles précédents. Et donc on le revoit finalement par rapport aux changements d'usage, aux changements aux évolutions des pratiques agricoles, à la présence aussi des influences du changement climatique. Là, c'est tout un paysage qui est amené encore à se transformer, à évoluer et à être modifié.
Et du coup, pour terminer, et pour rappeler un peu tout ce qu'on a dit, la haie est vraiment, et l'arbre champêtre de manière générale, est une excellente réponse vis-à-vis du changement climatique. C'est un peu le couteau suisse du territoire qui regroupe plein d'intérêts et qui a énormément de ressources à offrir. Cette gestion-là, cette remise en place de la haie, elle s'inscrit sur le long terme pour la réintégration, la remise en place d'écosystèmes pour les générations futures.
Merci Paul. Du coup, est-ce qu'on a une actualité liée à ces haies ?
Donc du coup, on entre dans la fin des périodes d'entretien pour les haies, vis-à-vis c'est des préconisations vis-à-vis de la nidification des oiseaux. Donc cette période-là s'étale, la période favorable pour l'entretien s'étale de la fin d'été, octobre, jusqu'au 15 mars. Donc on entre dans la fin de cette période-là, et l'idée est de laisser les haies tranquilles jusqu'à la fin de l'été pour permettre aux oiseaux de nidifier.
Et le vivant, ça s'anticipe. Alors le bon moment pour réfléchir à un projet de plantation pour l'automne, c'est dès maintenant. Finalement, on dit qu'il y a deux meilleurs moments pour planter. C'était déjà il y a 20 ans, mais finalement, pour en avoir les bénéfices aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc l'idée, ça va être, si vous souhaitez planter cet automne, que vous soyez agriculteur, collectivité ou même un particulier, vous pouvez dès à présent commencer un peu à y réfléchir et à l'anticiper. On arrive aussi finalement sur les derniers chantiers de plantation qui poursuivent depuis l'automne. Et donc on a un événement à vous partager. C'est un projet un prochain chantier de plantation qui va se passer ici à Esclanède, aux Planètes, qui est animé par le COPAGE et qui va être organisé donc le samedi 22 mars, à la suite d'une démarche Mon Territoire au fil de l'eau qui avait été portée par le réel 48 CPIE. Donc on vous donne rendez-vous le 22 mars, le samedi, à 14h aux Planètes.
Pour clôturer cette émission, on a une anecdote pour Brillant Société ?
On en a même plusieurs.
Oui, alors tout à l'heure, on parlait des arbres, des frênes qui étaient taillés en têtard, notamment sur les massifs de la Margeride et de l'Aubrac, où on en retrouve pas mal. Donc du coup, c'était des tailles qui étaient faites sur le bout des branches pour fournir du fourrage d'appoint pour les troupeaux en fin d'été. Et du coup, cette taille-là finit par former des espèces d'énormes boules au bout des branches. On appelle ça des têtards, mais ce nom-là, il y a un nom un petit peu plus local, on appelle ça des trognes, vis-à-vis de la forme que peuvent former ces espèces de boules taillées, qui peuvent faire penser à des espèces de drôles de visages. On appelle ça des trognes.
Et moi, est-ce que du coup, vous voyez tous ces haies de buis et de genévriers plantés sur l'Écosse ? Finalement, c'est des arbres qui ont été aussi, eux, taillés. Donc, généralement, on était plus taillés à ras du pied, ce qu'on appelle une sorte de recépage. Et finalement, tous ces haies de buis et de genévriers qui pouvaient servir finalement d'allume-feu pour les fours à pain à l'époque, on les retrouve encore présents aujourd'hui. Et donc même si la partie aérienne peut paraître plus ou moins jeune, finalement toute la partie racine peut traduire des arbres qui sont présents depuis plusieurs centaines d'années.
Eh bien merci à tous les deux pour cette belle émission ici à Esclanède. Nico, est-ce que tu sais où on va aller le mois prochain ?
Alors le mois prochain, ça ne sera pas moi qui sera avec vous, ni Paul, mais quelque chose me dit que vous allez quitter les natures vivantes pour aller rejoindre les natures mortes.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mande et Lot-en-Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.